Anna, alors quels sont les projets qu'Helvetas soutient, projets que l'on appelle d'autodéveloppement ou auto-assistance, dans le sens que c'est appuyer un projet qui se réalise sur place, en fait?
Oui, donc depuis quelques années, on essaye d'appuyer justement des groupes, des partenaires locaux qui, travaillent dans les villages. En fait, notre intervention n'est plus dans l'exécution même des travaux, comme ça se faisait autrefois, mais c'est un appui à des organisations locales existantes. Donc, par exemple, nous avons la création de banques de céréales dans une région du Mali, qui est faite dans le but de maintenir dans une région une partie au moins de la production céréalière pour assurer donc l'approvisionnement alimentaire. Donc c'est le système est très simple. La banque c'est donc en fait un dépôt achète aux paysans la récolte à un prix donc qui est en fait supérieur au prix du marché au moment donc des récoltes. Et ensuite, au moment de la soudure, c'est-à-dire avant la prochaine récolte et quand les réserves familiales sont épuisées, les paysans peuvent retourner à la banque et racheter les céréales à un prix, à ce moment-là, nettement inférieur au prix du marché. Donc, évidemment, les paysans ont compris qu'ils avaient tout à gagner avec ce système. Et ça marche bien dans le sens que il y a un comité de gestion qui est élu par le village, donc la population villageoise. Donc ils ont quand même un contrôle sur ce qui se fait pour savoir si la gestion est honnête ou pas.
Et quelle est la part des femmes alors dans ce projet-là de banque de céréales?
Pour l'instant, elle n'est pas encore très importante. En fait, les femmes sont parmi les clientes et les vendeuses de céréales à la banque. Mais au point de vue donc de la gestion, elles n'en font pas encore partie par le simple fait qu'il faudrait quand même avoir un minimum de notions. Bon, déjà, il faut être alphabétisé. Et comme on a vu, il y a peu d'écoles dans le pays. Et en plus, ce sont toujours les enfants, les garçons qui sont privilégiés par rapport à l'éducation. Donc, les femmes ont doublement du retard à rattraper.
Est-ce qu'elles ont d'autres lieux d'organisation en tant que femmes? Si elles ne sont pas tellement représentées dans des comités comme par exemple ceux qui contrôlent ou gèrent la banque de céréales, est-ce qu'elles ont leurs propres organisations à elles? Elles ont des endroits où elles se réunissent entre elles pour trouver des moyens nouveaux ou discuter de ce qu'elles vont faire?
Oui, ça, il y a une organisation traditionnelle au niveau du village qui concerne les femmes. Ça s'appelle le TON. Et c'est un groupe d'entraide, en fait, qui fonctionne dans différentes circonstances. Par exemple, elles peuvent se mettre ensemble pour aller aider les hommes sur leur champ. Et à ce moment-là, elles se font payer. Leur travail est rémunéré, soit en nature ou aussi en argent. Et en admettant qu'il s'agisse d'argent, elles l'utiliseront pour organiser des fêtes. Donc des fêtes à l'occasion d'un baptême ou d'un mariage ou des rites d'initiation des garçons et des filles. Et bon, il peut arriver aussi qu'une femme soit malade au moment où elle doit récolter son champ. Alors à ce moment, c'est le temps qui intervient et elle va travailler sur le champ de cette femme. Et ça demande toujours une réciprocité.
Donc il y a une forte solidarité qui règne entre elles au niveau de l'organisation de leur travail?
Oui, en général, dans la plupart des villages.
Est-ce que cette structure, elle est strictement limitée au village où elles habitent ou il y a aussi, peut-être par l'intermédiaire des femmes qu'elles rencontrent dans les marchés, des communications avec d'autres femmes et une organisation qui dépasserait celle de simplement le village?
À ce niveau-là, non. Ça se passe principalement dans les villages et ça reste une organisation simplement villageoise du fait que les distances sont quand même assez grandes parce que l'habitat est assez dispersé. Donc, elle perdrait déjà passablement de temps à aller dans un autre village pour aider d'autres gens. Pour finir, l'effort se perdrait un peu. Mais par contre, au point de vue politique, il y a effectivement une structure qui s'appelle l'Union malienne des femmes, ou quelque chose comme ça.
Mais qui joue un rôle efficace.
Pas vraiment, non.
Et le marché n'est pas le lieu de rencontre qui amènerait des nouveautés d'un village à un autre. Parce que là, de toute façon, ils y vont.
Ça doit être effectivement un lieu de rencontre et d'échange, un lieu où elles peuvent justement se rencontrer pour discuter. Peut-être aussi, oui, pour discuter de nouveautés qui se sont passées. Mais je ne sais pas dans quelle mesure ça peut avoir une influence pour des changements.
Dans les villages du Mali que vous avez vus, lorsqu'on a construit un puits, par exemple, que Helvetas a soutenu, appuyé le forage d'un puits, qu'est-ce que ça change à la vie quotidienne des femmes? Est-ce qu'elles ont l'impression que c'est un progrès pour elles?
Oui, en tout cas, quand on les interroge, elles disent toutes que depuis qu'il y a le forage, les enfants sont moins malades, elles ont en fait moins de trajets à parcourir. Donc elles en voient quand même les avantages, elles disposent de davantage d'eau, donc elles peuvent faire aussi un peu d'irrigation pour leur jardin potager. Et à ce point de vue-là, c'est nettement un progrès, oui.
Parce que cela ramène en même temps une production meilleure, donc plus d'argent au marché.
Il y a ça, en plus du fait qu'elles ont moins de trajets à faire, donc moins de pertes de temps, elles peuvent aussi s'occuper d'autres choses qui peuvent être source de revenus.
Est-ce qu'elles sont très conscientes du fait que le puits, par exemple, c'est ça qui amène un progrès énorme dans la santé de leurs enfants? Ou bon, c'est le hasard des choses, c'est comme ça, l'enfant crie moins.
En fait, dans le cas d'un village où j'ai vu que tout à coup il y avait la pompe qui était en panne, je me suis rendu compte que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment bien ancré dans leur conscience. Parce que le matin, il y avait eu une séance d'animation où on leur avait expliqué pourquoi il fallait utiliser l'eau propre et si on n'en avait pas à disposition, ce qu'il fallait faire si elles devaient aller chercher l'eau au puits traditionnel. Donc, en l'occurrence, il s'agissait de filtrer l'eau avant de la boire. Et ils ont bien répété la leçon à merveille, mais dans l'après-midi, justement, la pompe ne marchait plus. Elles ont dû retourner au puits traditionnel. Et là, j'ai vu que absolument rien n'était vraiment intégré.
Donc, elles repuisaient l'eau comme elles avaient l'habitude, sans tenir compte des explications qu'elles avaient
reçues. Elles la buvaient directement, avec le plus grand plaisir, alors que c'était une eau qui était grise.
Donc, l'animation autour du puits d'expliquer ce que va amener, c'est une chose importante, ça.
Ça prend énormément de temps. C'est ça, nous, avec notre mentalité européenne qui va très, très vite, nous avons beaucoup de peine à réaliser cet état de fait qu'on ne peut pas bousculer les gens et qu'il faut du temps pour qu'ils prennent conscience.
Mais ça, ces groupes de prise de conscience, ces explications qu'on a données aux femmes, par exemple, c'est qui les donne?
C'est donc du personnel qui fait partie du projet des forages Mali Sud, donc l'équipe d'animation qui va dans les villages justement pour expliquer ces problèmes.
Alors ça, je crois, Barbara, c'est un problème qui est très au cœur du Mozambique aussi. Nous allons en parler tout à l'heure à propos de projets particuliers au Mozambique et de la situation des femmes au Mozambique.
Le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute a pas de chance, ou Dieu qui nous fout droit. Et le désert avance, plus personne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance, que l'on soit, les femmes touareg dansent, elles-mêmes n'y croient pas, dans leurs souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là, mais le désert avance, le sable devient roi, et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts. Dans ces dunes immenses, qui donc y survivra? Mais toi qui viens de France, où l'on... l'oubli qu'on boit. Dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois, dis-leur quelle est leur chance. Et qu'ils ne la voient pas, et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi, que le désert avance. Et l'eau n'arrive pas sans cette délivrance. Nous n'avons plus le choix. Dis-leur que la nuit tombe sur cette affreuse urgence, et que c'est sur nos tombes que le désert avance.
Barbara Hahn, vous revenez tout juste du Mozambique, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, vous y étiez allée en octobre et novembre 89. Donc, c'est un voyage qui est tout frais dans vos têtes.
Ah oui. Et une chose qui m'a surprise énormément, parce que, comme au Mozambique, c'est une situation de guerre, une guerre qui n'était jamais déclarée. J'étais préparée d'avoir d'autres impressions, des impressions ou bien des images qu'on a chez nous, qu'on reçoit chez nous de la télé ou bien des journaux. Mais l'atmosphère de peur ou d'agression, ou bien aussi la situation du souffle coupé, je n'ai pas rencontré. Mais bien que la tension politique existe, on pouvait se promener, les gens flânent dans les rues, j'ai rencontré une situation relaxée et ça m'a impressionné. C'était ma première impression qui m'a fort étonnée. Mmh.
Vous avez rencontré, par exemple, peut-être là-bas, des femmes qui appartiennent à l'Organisation des femmes du Mozambique. Nous venons d'entendre, par exemple, un extrait d'une chanson qui avait été faite par des femmes de cette organisation lors d'une convention ou d'une réunion, un congrès de cette association. Et, par exemple, l'une d'entre elles, j'ai lu une petite citation de l'une d'entre elles, Lina Magaya, qui disait « Nous autres femmes mozambicaines, on a bien plus de pouvoir que vous les femmes en Europe. » Alors, quand vous vous êtes promenées dans les villages ou en général dans le Mozambique, est-ce que vous avez constaté qu'effectivement, elles ont plus de pouvoir que nous? Comment cela se marque?
Alors, j'étais surprise de la fierté et de la confiance en elles-mêmes que les femmes mozambicaines montrent. Et une fois, j'avais l'occasion de parler avec une femme qui est responsable du mouvement de femmes mozambicaines à Pemba. C'est la ville où Helvetas a du personnel stationné. Et alors, j'ai demandé à cette femme quelles sont ses devoirs et qu'est-ce que c'est, oui, son tâche dans le groupement. Et elle a parlé surtout qu'elle donne de la motivation des autres femmes, et elle a considéré la situation de la femme importante du point de vue qu'elle est responsable pour plusieurs tâches. Elle est responsable pour la maison, pour les enfants, pour que le champ sera cultivé, pour la récolte. C'est elle qui éduque les enfants. Et puis, oui, c'est elle qui va chercher l'eau. Elle est très importante parce qu'elle est responsable de toutes ces choses et elle est informée sur toutes ces choses. Alors, elle se prend très important et elle est sûre d'elle-même. Tandis que l'homme, il travaille très souvent dans des plantages ou bien, oui, s'il a un emploi dans une organisation, il est déjà très privilégié. Mais souvent, les hommes, ils ont deux ou trois professions pour qu'ils puissent gagner assez pour la vie quotidienne.
Mais les tâches que vous décrivez comme étant les responsabilités de la femme mozambicaine ressemblent beaucoup aux tâches de la femme malienne dont nous parlions tout à l'heure. Mais est-ce que ça veut dire donc qu'elles auraient plus de pouvoir de décision, par exemple, dans leur famille ou dans le village?
Ce que j'ai pu constater, elle prend des décisions elle-même dans le domaine des enfants et du ménage. Mais je pense aussi qu'il y a d'autres domaines où c'est l'homme qui décide et qui se prend plus important que la femme. Mm-hmm. Surtout que dans la province de Cabo Delgado où Helvetas travaille, il y a les deux. Ou bien il y a les trois. Il y a des chrétiens, il y a des gens qui sont musulmans et il y a des animistes. Et alors, les partis qui sont musulmans, c'est bien clair. Il y a aussi des mosquées, une école de Coran, alors qu'on n'échappe pas à la...
La discrimination des femmes dans la religion musulmane, oui.
Oui.
Mais par contre, c'est un peu différent ailleurs.
Je pense que c'est moins rigide que dans un pays typiquement musulman.
Bon, ce qui est quand même très différent au Mozambique du Mali, c'est que bon, le Mozambique était une ancienne colonie portugaise qui a lutté pendant de nombreuses années pour son indépendance et l'a obtenue tardivement, puisque oui. Mozambique est devenu indépendant en 1975 seulement. Et comme vous le disiez, est aujourd'hui un peu encore dans une situation de guerre. Est-ce que... Le pays a mis sur pied depuis son indépendance une structure sociale, politique qui est différente de celle des autres pays. Est-ce qu'on a, la République populaire du Mozambique.
Oui,
donc on a un système socialiste qui est mis en place. Est-ce que ça signifie quelque chose de différent pour les femmes?
Je pense qu'il faut se rendre compte quel était le moment quand l'indépendance était acquérie en 1975, parce que plus que 90% étaient des analphabètes. Et quand il faut commencer à ce niveau très bas, alors ça prend beaucoup de temps pour rattraper ou pour recevoir un développement et un niveau qui donne une base et
qui donne un meilleur niveau de vie.
Oui, mmh. Oui. Et en plus, la situation de cette guerre, c'est vraiment une situation très, très difficile. C'est la RENAMO, c'est un mouvement de bandits plutôt, car ils n'ont pas d'ambition politique. Et c'est la RENAMO... attaque en action de guérilla des écoles, des postes sanitaires, des hôpitaux ou des villages, aussi les champs au moment de la récolte. Et par ces destructions, le pays est toujours reculé et n'avance pas suffisamment dans le développement. C'est une vraie tragédie et les conditions de vie des gens dans les zones rurales sont vraiment pires.
Mais ça, par exemple, ce dont vous venez de nous parler, ça signifie quoi, par exemple, dans la vie quotidienne d'un village et, par exemple, pour les femmes qui vont dans les champs et qui courent le risque qu'on incendie leurs champs, puisque vous donnez comme exemple d'action de sabotage, que, par exemple, on s'en prend aux récoltes. Alors, les femmes réagissent comment face à cette situation-là?
Alors, ils ne vont plus dans les champs. Ils ne vont pas... Parfois, ça arrive même que la situation est aussi difficile que les gens ou que les femmes préfèrent de ne pas aller chercher la récolte pour sauver la vie. Et en revanche, ils ont moins de manger, ils ont moins de nourriture et ils n'ont pas l'argent. Tout d'abord, c'est la nourriture qui manque pour manger. Et peut-être la récolte était aussi grande qu'ils auraient pu faire une surproduction et vendre une partie de cette récolte. Alors c'est la nourriture qui manque et c'est l'argent qu'on pouvait gagner qui manque aussi. Alors c'est
oui, et tout le travail,
les travaux étaient tout de même au commencement pour semer et pour arroser et à la fin on n'a pas de résultat.
La structure du village. On a parlé tout à l'heure du Mali, d'une structure très traditionnelle, d'une vie très traditionnelle, ancestrale. Est-ce que, par exemple, au Mozambique, il y a aussi une structure traditionnelle comme ça? Ou est-ce que la lutte de libération et l'instauration d'un nouveau système politique dans le pays a fait que les choses sont complètement organisées différemment et que la femme a une autre place dans le village?
Ça dépend. Alors, avant la... Depuis l'indépendance, les femmes, on a commencé à fonder des villages et comme ça, c'est plus facile pour que tous les enfants vont à l'école et du moment de l'indépendance, c'était obligatoire que les enfants vont à l'école et c'était gratuit aussi et aussi pour faire des vaccinations, des campagnes de vaccination pour
protéger des maladies principales.
Oui, alors ça, pour ça, c'était beaucoup plus facile si les gens vivaient dans des villages. Et ça, c'est aussi, on a avancé aussi dans ces domaines. La santé des enfants s'est améliorée. Et aussi, tous les enfants pouvaient entrer à l'école.
Mais donc, ce n'était pas la structure normale d'un village. Les gens n'étaient habituellement pas regroupés comme ça.
Avant, ce n'était pas comme ça. Mais avant, comme ça, on ne pouvait pas atteindre toutes les personnes. Et ça, c'est pas selon les traditions. C'est pas selon les traditions. Mais l'avantage était que sur le plan social et sanitaire, la population a beaucoup profité.
Et les femmes dans le village, elles participent aux décisions? Elles sont dans les comités du village ou bien est-ce qu'elles sont actives là, dans ce genre de nouvelles structures alors?
Elles sont dans des comités, mais tout d'abord, on contacte l'administration du village qui est presque toujours un homme et au moins, j'ai seulement rencontré des hommes pendant mon voyage. Mais à part de l'homme qui est responsable pour l'administration, il y a des femmes qui sont chargées pour la sensibilisation du village entier, pour informer qu'est-ce que ça veut dire avoir un puits, pour expliquer quels seront les avantages si on aura de la vie, de l'eau propre et potable. Et ça, c'est le devoir des femmes.
Vous en avez rencontré beaucoup qui sont responsables de cette tâche-là?
J'en ai rencontré plusieurs femmes, oui.
Alors, on aimerait bien que vous nous racontiez, juste après encore un petit peu de musique de leurs chansons de femmes, comment ça se passe.
Yeah.
Alors, Barbara, il y a aussi de nombreux projets qui consistent à amener l'eau directement dans les villages en creusant des puits, que les femmes n'aient plus besoin d'aller au puits traditionnel. Et bien sûr, ça a toutes sortes d'avantages, mais il faut expliquer aux gens comment utiliser le puits. Autrement, tout le travail devient nul si le puits n'est pas utilisé convenablement. Et c'est la tâche des femmes d'expliquer aux autres femmes comment utiliser convenablement l'eau. Alors, qu'est-ce que vous avez, puisque vous avez assisté à ces réunions d'information, comment les femmes le font, comment ça se passe?
Je pense plus important que savoir comment utiliser le puits, c'est comment utiliser l'eau quand une fois à la maison. Parce que si on entre dans l'eau avec des cuillères qui ne sont pas propres, l'eau potable ne sert à rien parce que ce sera
pollué, oui.
Oui, de nouveau. Et une autre chose qui est importante aussi concernant le puits, c'est de ne pas amener les... Alors, la femme responsable, elle informe les autres femmes du village qu'il ne faut pas laver la lessive dans les environs du puits, qu'il ne faut pas amener les animaux dans l'environ des puits. Et... il y a beaucoup de chèvres dans les villages qui se promènent seulement comme ça. Et alors, il est important qu'on mette une sorte de barrage.
Que les gens comprennent qu'on peut polluer l'eau du puits.
Oui.
Parce que sur le sol est déposé des produits mauvais,
oui,
comme
oui, exactement.
Les cacas des chèvres.
Oui,
et puis que c'est avec
ça,
la pluie,
ça entre
ça pollue
dans
tout.
La terre, voilà, et ça, ouais, entre après dans l'eau plus tard. Et ce sont ces relations que la femme responsable pour la propreté du puits, qu'elle explique aux autres femmes.
Cette femme-là a été choisie par les autres femmes du village, les autres gens du village?
Oui, elle a été élue par les autres gens du village. Et elle a reçu aussi une certaine formation pour qu'elle aussi, elle comprend ces relations entre... et ce qui est important pour que l'eau reste propre.
Et ça se passe bien, tout ça? En général, après quelques séances d'explication, ça marche? Les gens appliquent, les femmes appliquent ce qu'elles ont entendu?
Ça dépend bien aussi de la personnalité de cette femme, et ça dépend de l'acceptance aussi. Il y a des lieux, ça marche pas mal, mais il y a aussi des villages, les gens ont plutôt l'attitude fatiguée et ne s'occupent pas beaucoup, ne paient pas tellement attention sur ces faits et sur ces relations. Ça dépend énormément de la personnalité des gens.
Qui sont responsables,
oui.
Est-ce que c'est toujours une femme qui est responsable de l'entretien du puits?
Pas toujours, non. Il y a aussi des responsables... des hommes qui sont responsables. Et surtout, alors, la femme est responsable, presque toujours, c'est la femme qui est responsable pour la propreté et le fonctionnement. Mais il y a aussi un homme qui possède un cage et du matériel technique pour faire des réparations ou pour remplacer des trucs. Et dès que la femme constate que le puits ne fonctionne plus, que ce soit c'est la pompe qui ne fonctionne plus ou quelque chose qui ne va pas bien, elle avertit l'homme et puis c'est
la
lui.
La technique, c'est
oui,
l'homme.
Oui, c'est l'homme. Et puis il arrive avec son cage et il répare. Mais parfois aussi, il n'a pas beaucoup d'envie pour arriver parce qu'il pense... l'argent qu'il va recevoir, c'est pas... ne vaut pas la peine d'y aller parce que souvent il faut faire quelques kilomètres pour atteindre le puits. Mmh. Et puis ça arrive aussi qu'il pense ça ne vaut pas la peine, hein, de faire ce chemin. En plus, il y a toujours les puits traditionnels qui sont dans l'environ, alors peut-être il le laisse traîner aussi quelques jours ou semaines. Ça dépend comment, si la femme exige ou si elle n'exige pas.
Aha. Vous m'avez fait voir un film que malheureusement on ne peut absolument pas faire partager à nos auditrices, contrairement à celui que j'avais vu à propos des femmes de la République dominicaine, dans la mesure où c'est un film complètement muet. Et ce n'est pas par hasard que c'est un film muet, puisqu'il évoque aussi toute cette éducation à l'utilisation de l'eau. Et il est muet pour quelle raison, tout bêtement?
Alors, comme la langue officielle au Mozambique, c'est le portugais, mais il y a beaucoup, beaucoup d'ethnies qui ne parlent pas tellement bien le portugais, qui parlent le macondé ou le macua, quel que soit. Et pour ça, on a pensé qu'il faut faire un film qui est très, très expressif pour qu'on peut comprendre des images.
Mais ça veut donc dire que ce film est montré dans les villages.
Oui,
c'est un film qui est utilisé au Mozambique.
Oui, c'est un grand événement dans les villages. Si l'équipe de la télé mozambicaine arrive avec des camions et avec tout l'équipement.
Générateur pour l'électricité et tout.
Oui, tout ça parce que...
Il n'y a pas d'électricité non plus.
Il n'y a pas d'électricité, oui. Mais aussi, c'est rare, il y a très peu de voitures dans les zones rurales, Et alors, si on va passer une voiture, au moins pour ça, il n'y a pas de problème que les gens du village viennent voir, parce que c'est seulement la voiture, c'est déjà un événement, et tous les villageois arrivent pour voir. Et s'il y a même un film, on est sûr que tout le monde est attentif et va voir le film.
En l'occurrence, ce film, les femmes sont les héroïnes de ce film et on les voit très bien, effectivement, le jour où on inaugure le puits, on élit une responsable qui est approuvée par tout le monde dans le village et elle habite juste à côté du puits et c'est elle qui remet le seau et la poulie pour qu'on puisse puiser l'eau. Et on va par toutes sortes de petites histoires pleines de coups d'œil et de clins d'œil, donc c'est effectivement très compréhensible au niveau des images, il n'y a absolument pas besoin du son, comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire et d'autres choses qu'il faut faire. On voit par exemple des enfants qui envoient leur ballon dans le puits, par exemple. Alors là, bien mal leur en a pris parce qu'ils se retrouvent à devoir cultiver les champs plus longtemps que les autres. On les punit sévèrement pour avoir été inconscients à ce point-là. Et puis, il y a aussi quelque chose qui s'adresse directement aux femmes sur leur mauvaise utilisation de l'eau aussi et du puits. Par exemple, on voit très bien une femme qui s'étonne que le bébé de sa voisine pleure tout le temps.
Ah oui.
Et qu'est-ce qu'elle va... Effectivement, elle s'aperçoit que pourquoi ce bébé pleure toujours.
Oui. Bien sûr, une fois où ces femmes qui sont sensibilisées et qui comprennent que l'enfant peut avoir des microbes et avoir du mal au ventre à cause de l'eau pollue, alors c'est son devoir aussi d'expliquer les circonstances dans lesquelles le bébé se trouve et et elle devrait montrer à l'autre femme ce qu'elle faisait
de faux,
oui. Mais je pense souvent c'est normalement si un enfant pleure, la femme le prend sur le dos et avec les mouvements de la femme l'enfant se tranquillise. Alors pour la femme elle-même, dès qu'elle n'est pas encore sensibilisée, un enfant qui pleure, c'est pas
un signe d'alerte.
Non, c'est pas un signe d'alerte. Et surtout, j'ai peu constaté des enfants qui pleurent parce que presque toujours, ils sont sur le dos de la mère. Et alors, ça tranquillise, l'enfant est content. Alors, elle a ses propres mesures et méthodes de tranquilliser l'enfant. Et elle ne... Tout d'abord, elle n'est pas consciente, elle ne pense pas qu'on pourrait changer l'eau. Alors, elle le prend sur le dos et l'enfant se tranquillise.
Mais cette action que, par exemple, une voisine peut se mêler de la vie de son autre voisine en lui faisant, comme on voit dans le film, elle va prendre le récipient dans lequel elle met l'eau, elle va lui montrer qu'il est sale, elle va le nettoyer, elle va envoyer ses enfants chercher de l'eau, va lui dire non, tu ne dois pas prendre avec ça parce que tu vois bien que ce gobelet, il est sale, elle lui offre une autre louche, etc. Oui. Enfin, cette façon de se mêler de sa vie, ça se passe vraiment dans la réalité?
Oui, ça passe dans la réalité, parce que les gens ne vivent pas tellement séparés comme c'est habitué, comme nous, comme c'est normal pour nous, les femmes, les gens, ils entrent dans la maison de l'autre, ce sont des portes ouvertes, chacun s'occupe de l'autre, c'est vraiment une communauté, c'est pas des séparations, des appartements séparés comme chez nous, et chacun est pour ça, pour soi-même, non, ça c'est...
Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait réellement un progrès qui petit à petit va se passer, parce que si pas beaucoup de monde pour l'instant est très conscient des choses auxquelles il faut faire attention à propos de l'eau, petit à petit, chacun donnant un petit conseil à l'autre, les choses vont évoluer.
Oui, et c'est aussi, ça se passe aussi comme ça qu'un village est impressionné par un autre parce qu'ils ont un puits et ils voient... ça fonctionne, et puis il s'adresse à nous pour demander, on aimerait bien avoir un puits aussi, parce que ça nous a impressionné, ça arrive aussi, mais c'est pas encore la garantie qu'ils le font proprement après, qu'ils le gardent leur puits aussi, mais ça arrive qu'on essaie de copier les autres.
Eh bien, Barbara Jour, merci de nous avoir parlé du Mozambique. Peut-être toutes les deux, j'aimerais vous poser une dernière question qui concerne aussi bien le Mali que le Mozambique. Est-ce que ces efforts qu'on a vus, ces journées incroyables que mènent les femmes aussi bien au Mali qu'au Mozambique et qui on espère, devraient ramener quelque chose, est-ce que c'est vrai dans la réalité? Est-ce qu'elles ne travaillent pas pour rien? Leurs efforts sont réellement productifs? Leur participation à essayer de proposer des nouvelles choses petit à petit, sont rentables? Elles ont l'impression que les choses changent?
Les choses changent, mais vraiment petit à petit. Et je crois que tout d'abord, on doit un peu oublier notre échelle européenne, donc qui veut voir des résultats tout de suite. Donc, comme il s'agit très souvent aussi de processus de conscientisation, il faut du temps pour cela aussi. Évidemment, chez nous aussi, les choses n'ont pas changé du jour au lendemain. Et il faut voir cette question-là. Mais il faut dire, d'un autre côté, que la situation d'endettement grave dans laquelle se trouvent ces pays actuellement fait qu'il y a un frein aussi qui est mis à beaucoup de choses qui autrefois avaient évolué. Comme par exemple dans le domaine de la santé, certaines prestations ne sont plus assurées par l'État. Donc si on considère les statistiques, on voit qu'il y a une régression maintenant par rapport à il y a 5 ans.
Donc ces prestations ne sont plus assurées parce qu'entre autres, le Fonds monétaire international exige des économies drastiques de la part des pays pour les aider à compenser leur endettement. Et c'est ce qui fait que tout à coup, certains avantages ne sont plus donnés aux habitants, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et donc, en contrepartie, on demande aux populations de prendre en charge elles-mêmes certains frais.
Barbara, quelle conclusion vous tireriez à partir de ce que vous avez vu vous-même au Mozambique? Est-ce que les femmes ont l'impression que ce qu'elles font sert à quelque chose dans le développement de leur pays?
Je pense, oui, qu'ils font quelque chose, qu'ils font beaucoup de choses pour le développement de leur pays. Mais je pense aussi, 15 ans de l'indépendance, si on souffre, c'est beaucoup. Mais pour le développement d'un pays, c'est rien, c'est peu, et on ne peut pas attendre des miracles.
Ça, mais elles en sont conscientes de ça, qu'il faudra du temps pour que les choses changent.
Parfois, ils sont fatigués aussi, bien sûr. Elles ont des moments où elles sont fatiguées et aimeraient changer d'un moment à l'autre. Mais tout de même, je pense qu'elles sont bien conscientes que ça prend du temps et que c'est tout un processus.
Eh bien, je vous remercie infiniment pour toute cette information aujourd'hui. On vous annonce déjà le sujet de notre prochaine rencontre mensuelle, donc au mois de février, qui aura lieu le 28 février. Et nous parlerons cette fois-ci, je crois, d'une association de consommatrices en Malaisie, avec Philippe Besson cette fois. Alors, c'est aujourd'hui la fin de Remue Ménage sur Radio Zone 93.8. Et nous partons avec un peu de musique encore du Mozambique, mais cette fois-ci, on se met dans une époque plus moderne, avec Marabenta. Alors, c'était encore quelques accents de musique du Mozambique pour finir en douceur notre sujet sur le rôle des femmes dans le développement dans un pays comme le Mali ou le Mozambique. Nous vous rappelons que le mois prochain, 28 février, nous parlerons de la Malaisie, toujours en compagnie de membres de l'association Helvetas. Pour ce qui est de la semaine prochaine, eh bien, nous allons faire un sujet hyper culturel, si je puis dire, dans la mesure où j'ai d'abord rencontré pour vous Catherine Sumi, qui est la comédienne unique et importante du spectacle qui passe en ce moment au Théâtre de Poche à Genève, l'histoire d'amour du siècle. Et elle nous racontera ce qu'elle pense de ses critiques de journaux et de ses avis de spectateurs et spectatrices qui pensent que tout est déjà tout dit sur la condition de la femme et qu'un spectacle qui ose évoquer la situation d'une femme est inutile et du rabâchage et complètement nul, puisque c'est hélas un peu le contenu de certaines des critiques qui ont parlé de ce spectacle. Alors, avec Catherine Sumier, la semaine prochaine, nous évoquerons est-ce que vraiment ça a encore un sens de faire des spectacles qui évoquent la condition de la femme. Et puis, en deuxième partie d'émission, eh bien, nous vous passerons tout simplement un texte qui a été écrit par Annelise Grobetti, qui s'appelle Maternaire et qui est lu par Michel Amoudru. Texte qu'elle a lu dans le cadre des lectures organisées par l'association Femmes de Théâtre qui se passe tous les lundis au Théâtre du Grutli en ce moment, dont nous allons parler ce soir plus tard avec Marie-Ange, n'est-ce pas ? Et Michel Amoudru d'ailleurs, oui. Donc j'ai pensé qu'il serait bon d'entendre de temps à autre une de ces lectures. En tout cas, Maternaire se prête extrêmement bien à l'écouter tranquillement, assis dans votre fauteuil, en compagnie de Romy Ménage, le mercredi soir entre 17h et 18h30. Alors à la semaine prochaine.
Sí, por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender.